Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, vous mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas être atteint par les fléaux qui vont l'atteindre. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de toutes ses actions injustes. Qu'elle soit traitée comme elle a traité les autres. » Payez-la au double de ses méfaits, et dans la coupe où elle donnait à boire aux autres, versez-lui une mixture deux fois plus forte. Autant elle a vécu dans la splendeur et dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de malheurs. « Je trône ici en reine, disait-elle. Je ne suis pas veuve. Jamais je ne connaîtrai le deuil. » Voilà pourquoi en un seul jour, elle verra tous les fléaux fondre sur elle, mort, deuil et famine. Elle-même sera consumée par le feu, car le Dieu qui a prononcé la sentence sur elle est un puissant Seigneur. Alors les rois de la terre qui ont partagé sa vie de débauche et de luxe pleureront et se lamenteront sur elle en voyant monter la fumée de sa ville, la ville embrasée. Ils se tiendront à distance de peur d'être atteints par ses tourments. « Malheur, malheur, gémiront-ils, la grande ville, Babylone, ville puissante, une heure a suffi pour l'exécution de ton jugement. Les marchands de la terre pleurent et mènent le deuil sur elle, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. Leurs cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, leurs étoffes de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, leurs bois aromatiques, leurs bibelots d'ivoire, tous les objets en bois précieux, en bronze, en fer, en marbre, la cannelle et autres épices, les parfums, la myrrhe, l'encens, le vin et l'huile, la farine et le froment, les brebis, les bœufs, les chevaux, les chariots, les corps et les âmes d'êtres humains. Les objets de tes passions ont fui loin de toi. Raffinement et splendeur sont perdus pour toi. Plus jamais on ne les retrouvera. Et les marchands qui s'étaient enrichis par leur commerce avec elle se tiendront à distance de peur d'être atteints par ses tourments. Ils pleureront et mèneront le deuil et diront « Malheur, malheur !» La grande ville qui se drapait de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée de bijoux d'or, de pierres précieuses, de perles, en une heure, tant de richesses ont été réduites à néant. Tous les capitaines des bateaux, leur personnel, les marins, tous ceux qui vivent du trafic sur mer, se tenaient aussi à distance et se répandaient en cris à la vue de la fumée qui montait de la ville embrasée, disant « Quelle ville pouvait rivaliser avec la grande cité ?» Et ils se jetaient de la poussière sur la tête et ils criaient, ils pleuraient, se lamentaient. Malheur, malheur, la grande ville dont la prospérité avait enrichi tous les armateurs des mers, en une heure, elle a été réduite à néant. Réjouis-toi de sa ruine, ciel. Et vous, membres du peuple saint, apôtres, prophètes, réjouissez-vous, car en la jugeant, Dieu vous a fait justice. Alors un ange puissant, prit une pierre semblable à une grosse meule et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi, avec la même violence, sera précipitée Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. On n'entendra plus chez toi la musique des harpistes et des chanteurs, ni flûte, ni trompette. » Ne résonnera plus dans tes murs, on n'y verra plus d'artisans. Le bruit de la meule s'y taira pour toujours, la lumière de la lampe n'y brillera plus, le jeune époux et sa femme ne s'y feront plus entendre. Et tout cela arrivera parce que tes marchands étaient les puissants de la terre, parce qu'avec tes sortilèges tu as trompé tous les peuples, et que chez toi on a trouvé le sang des prophètes et des membres du peuple saint, ainsi que de tous ceux qu'on a égorgés sur la terre. Babylone est tombée. Le monde entier se lamente et nous sommes appelés à nous réjouir. Voilà qui n'est pas commun et qui est peut-être même assez embarrassant. Nous savons que l'Apocalypse nous réservait bien des catastrophes, mais nous inviter à nous en réjouir, la chute de Mossoul, oui, en espérant qu'il n'y ait pas trop de victimes innocentes, et puis la chute de Raqqa, et puis la fin de Daesh, et puis la fin du terrorisme, oui, oui. Mais la Babylone dont ce chapitre nous annonce la fin ne ressemble guère à l'État islamique. Et même pour dire les choses plus franchement, elle n'y ressemble pas du tout. Babylone, c'est la richesse, c'est le commerce, le luxe. Ce ne sont pas les tristes voiles noires. Ce sont les belles robes, c'est la musique, c'est la prospérité, c'est le succès, c'est tout ce qu'on a peur de perdre ou qu'on voudrait avoir. Alors, je sais bien, c'est certainement pas le grand luxe qui nous tente. Mais disons, de quoi vivre quand même honnêtement, sans nous faire trop de soucis. Du travail, pour nous, pour nos enfants. La sécurité, la paix. Et cela fait de nous que nous trouverons plutôt du côté de Babylone. À trembler pour elle, à cause de ce qui peut lui arriver. De ce qui la menace et de ce qui, par là même, nous menace aussi. Alors, comment nous réjouir de sa fin ? Est-ce que le dernier livre de la Bible ne serait pas un peu anarchiste ? Altermondialiste ? Peut-être même djihadiste ? Pour souhaiter ce grand malheur, et pour l'annoncer de manière si déterminée, et pour s'en réjouir. Alors nous sommes invités à nous réjouir. Alors pour essayer de nous pénétrer de cette joie à laquelle nous sommes appelés, nous avons besoin déjà de prendre conscience des circonstances dans lesquelles l'apôtre Jean a reçu sa vision, et la communiquer aux chrétiens. Et puis nous avons besoin aussi de recevoir le message que toute la Bible nous communique sur Babylone. Il en est déjà question dans la Genèse, avec la tour de Babel. Et pour bien comprendre ce message, je crois que nous pouvons trouver une aide très précieuse de la part d'un des grands penseurs chrétien, qui a vécu il y a très longtemps, au 5e siècle, et c'est à Augustin que je pense. On a évoqué le mois dernier la grande figure du réformateur Martin Luther, qui vivait au 16e siècle, et ça m'encourage à recourir ce matin à cette autre grande figure qui peut nous être très utile pour cette question qui nous trouble aujourd'hui de Babylone. Mais avant de consulter Augustin, intéressons-nous à Jean. Jean est exilé dans une île inhospitalière, l'île de Patmos. Peut-être qu'il doit y travailler aussi. Et il y est exilé parce qu'il est chrétien. L'Empire romain commence à persécuter les chrétiens. Plusieurs ont payé de leur vie leur fidélité au Christ. Et Jean voit dans sa vision, sous l'autel céleste, il voit les âmes de ceux qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu. Et il les entend réclamer justice au Seigneur. L'image de Babylone que dépeint l'apôtre Jean, c'est une image qui ressemble beaucoup à Rome. Il y a même les sept collines. Au chapitre précédent, Jean nous dit que celui où reçoit cette information, que celui qui a de l'intelligence comprenne, les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Une femme orgueilleuse, opulente, maîtresse du monde, ivre du sang des chrétiens, du sang des témoins de Jésus, nous dit le chapitre précédent, et elle est appelée la grande prostituée, la mère des prostitutions et des abominations de la terre, parce que dans l'Ancien Testament, dans la symbolique de l'Ancien Testament, l'idolâtrie, l'adoration d'autre chose que Dieu, que le vrai Dieu, est vue comme une infidélité à Dieu, comme un acte honteux, méprisable. Alors, dans ces conditions, il n'est pas très difficile de comprendre que l'annonce de la chute de Babylone, c'est une bonne nouvelle pour les chrétiens. Que le ciel soit en fête, et vous aussi, chrétiens, apôtres, prophètes. Ça, nous le comprenons très bien, je pense, quand nous nous mettons à la place de l'apôtre Jean et à la place des chrétiens de son temps. Et probablement, nous le comprenons très bien aussi pour les chrétiens persécutés de notre temps. Mais pour nous-mêmes, avouons que nous avons de la peine à nous situer. Et c'est ici qu'Augustin peut nous rendre service. Alors, je vais le présenter quand même en quelques mots, parce que peut-être que vous ne le connaissez pas trop. Donc, Augustin est né le 13 novembre 354. On sait très bien quel jour il est né. Le 13 novembre, vous voyez, on est le 20 novembre, c'est à une semaine près, dimanche dernier, c'était son anniversaire. Enfin, l'anniversaire de sa naissance, parce que ça fait plus de 1600 ans. Il est né dans une ville qui s'appelait Tagaste à l'époque et que les Kabyles appellent toujours Tagaste, puisqu'elle est à l'est de ce qui est actuellement l'Algérie, près de la frontière avec ce qui est actuellement la Tunisie. À l'époque, la Tunisie, on l'appelait l'Afrique, juste la Tunisie. Ce qui correspond à la Tunisie actuelle, on l'appelait l'Afrique. Et là où était Augustin, on l'appelait la Numidie, et ce n'était pas toute l'Algérie. Bon, enfin. Augustin, il avait une triple origine. Il était à la fois kabyle, il avait une origine latine, il avait aussi une origine phénicienne. Sa mère, Monique, était chrétienne, mais lui-même, il s'est converti seulement à l'âge de 32 ans, et après avoir mené une vie assez dissipée. Lorsqu'il s'est converti, il était en Italie, il était à Milan. Et ensuite, il est revenu dans son pays et il a été l'évêque de la ville d'Hippone, la ville qui est aujourd'hui Annaba, dans la même région. Et c'est là qu'il est mort le 28 août 430. Alors, à l'époque d'Augustin, les choses ont bien changé depuis l'apôtre Jean. Pendant deux siècles, les choses sont restées dans l'état où les connaissait Jean. Pendant deux siècles, les chrétiens ont vécu tant bien que mal dans l'Empire romain, souvent mal et parfois très mal. Et on connaît plus près de nous les martyrs de Lyon qui ont été livrés aux bêtes dans le cirque. Et puis il y a Saint-Denis, l'évêque de Paris, qui a été décapité. Alors bon, la légende dit qu'il a marché avec sa tête jusqu'à Saint-Denis, mais ça, on n'est pas obligé de le croire. Mais il a été décapité, et ça, c'est certainement vrai. Voilà la situation pendant deux siècles. Et au début du IVe siècle, il y a eu un extraordinaire renversement de situation. L'empereur Constantin s'est converti au christianisme. Quelle revanche sur les deux siècles de mépris, de persécution. Rome, Babylone n'est pas vraiment tombée, la ville de Rome est restée, mais c'est le paganisme qui est tombé. Et alors, à ce moment-là, on croit que c'est vraiment une ère nouvelle qui s'ouvre, que c'est le règne de Dieu qui va s'établir sur la terre, et puis avec l'empereur chrétien. On oublie Babylone. On est presque entré de plein pied dans la Nouvelle Jérusalem. Mais les choses ne vont pas si bien. Et en 410, c'est-à-dire un siècle après la conversion de Constantin, en 410, la ville de Rome, elle est prise par les Visigoths et elle est pillée pendant 3 jours. Vous voyez le drame. Tant que Rome était l'affreuse Babylone, la prostituée, ivre du sang des chrétiens, elle avait été préservée. Malgré l'Apocalypse qui annonçait la chute de Babylone, et maintenant que Rome est devenue chrétienne, maintenant qu'elle n'est plus l'horrible Babylone, voilà qu'elle est prise, qu'elle est pillée et qu'elle est saccagée par des barbares qui en plus se disent plus ou moins chrétiens, parce qu'il y a une forme de chrétienne. C'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes ont été épargnées parce qu'elles se sont réfugiées dans les églises. Mais enfin, toutes les autres ont subi un affreux pillage. Consternation, scandale. Les chrétiens sont décontenancés et les auteurs païens ne manquent pas de dénoncer l'incapacité du Dieu des chrétiens. Il n'a pas su protéger la ville de Rome que les dieux païens, eux, avaient su préserver pendant 800 ans. Bon, je ne sais pas qu'il n'était pas arrivé de malheur à Rome entre-temps, hein, mais il y a eu l'incendie de Rome qui était terrible, mais aucun ennemi n'avait réussi à s'emparer de Rome et à la piller comme l'ont fait les Visigoths depuis 800 ans. Les précédents, c'était les Gaulois. Mais bien avant, vers Saint-Historix, c'était en 390 avant Jésus-Christ, que Rome avait été pillée par les Gaulois. C'est à cette époque-là, et avec cet arrière-plan du terrible pillage de Rome, sorte de 11 septembre de l'époque, c'est à cette époque qu'Augustin va écrire un de ses principaux ouvrages, La cité de Dieu. C'est un gros livre, en traduction ça fait à peu près 700 pages, et il y a 22 grands chapitres, à l'époque on disait que c'était des livres, donc 22 livres, ça fait 22 gros chapitres. Et dans ce livre, Augustin voit, dans la Bible et dans l'histoire humaine, il voit deux cités en cohabitation. Deux cités en cohabitation dans le monde, deux cités en concurrence, la cité terrestre et la cité céleste ou la cité de Dieu. Et la cité terrestre, c'est le monde tel qu'il est, avec ses structures sociales, ses structures économiques, ses structures politiques. Et la cité céleste, bon, c'est bien sûr le ciel où Dieu règne, mais c'est aussi très concrètement ici-bas, sur la terre, tout ce que Dieu entreprend, tout ce que Dieu mène à bien pour la réalisation de son plan de salut. La cité céleste, c'est ce que Jésus appelle dans ses paraboles le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, suivant les évangiles. Et ces deux cités, elles sont là, sur la terre, elles coexistent, mais elles ne peuvent pas se confondre. L'Empire romain, même gouverné par un empereur qui se dit chrétien, l'Empire romain ne sera jamais la cité de Dieu. Elle ne sera jamais le royaume de Dieu sur la terre. Ce sera toujours une cité terrestre, marquée par le péché, est voué à la destruction selon la perspective biblique. Car si Dieu agit maintenant dans ce monde, il agit en vue de la cité céleste qui remplacera entièrement la cité terrestre lorsque Jésus-Christ reviendra en gloire pour établir son règne. Et la chute de Babylone, dans la perspective biblique, c'est précisément la fin de la cité terrestre et l'avènement pour toujours de la cité céleste, la cité de Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes appelés à nous réjouir de la chute de Babylone. En devenant disciples de Jésus, nous devenons citoyens de la cité de Dieu, de la cité céleste. Comme le sont devenus tous les hommes et femmes de foi qui nous ont précédés, comme les patriarches, dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'ils ont été voyageurs étrangers sur la terre, ils ont vécu sous des tentes, parce qu'ils attendaient la cité qui a de solides fondements, la cité dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Et s'il y a vraiment quelque chose de durable qui se construit ici-bas, qui se construit là, qui se construit sur terre, qui se construit ici à Melun, qui subsistera au-delà de notre mort, au-delà de la vie et de la mort des nations et des empires, s'il y a quelque chose qui subsistera, c'est ce que Dieu lui-même construit. Ce qu'il construit en appelant des êtres humains au salut, en les faisant passer de la mort à la vie, en les faisant passer du règne des ténèbres au règne de son Fils bien-aimé. C'est de cette cité-là que nous sommes les citoyens. C'est pour elle que nous devons vivre. C'est pour elle que nous devons travailler. C'est pour elle que nous devons voter, si l'on peut dire, en priant le Seigneur comme il l'a enseigné dans le Notre Père, que ton règne vienne. Alors, est-ce à dire que nous allons nous désintéresser de la cité terrestre ? Comme si nous étions devenus un petit peu comme Thomas Pesquet, en train de tourner autour de la Terre, là, au-dessus des nuages. Certainement pas, parce que nous vivons à Babylone. Et tant que Babylone n'est pas tombée, son sort nous préoccupe. Et son sort nous préoccupe pas seulement à cause de l'instinct élémentaire de conservation, qui est une donnée de la créature. C'est Dieu qui nous a voulu ainsi, avec cet instinct de conservation. Mais c'est pas seulement par instinct de conservation, c'est aussi par intérêt pour nos semblables et par intérêt pour l'action de Dieu dans ce monde. Paul, écrivant à son disciple Timothée, insiste pour qu'on adresse à Dieu des prières en faveur de ceux qui nous gouvernent, pour que nous menions une vie paisible, en toute honnêteté et piété, et il ajoute « c'est agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ». Donc nous n'allons pas du tout nous désintéresser de la cité terrestre. Nous allons prier pour elle. Nous allons contribuer autant que possible à sa conservation, à son fonctionnement, au fonctionnement de ses institutions. Nous allons participer à la vie publique par amour pour nos semblables et parce que nous savons que c'est là que Jésus nous veut comme ses témoins. Non pas en dénigrant la cité terrestre, non pas en entonnant le refrain facile de tous pourris, qui sont les plus pourris qui l'entonnent. Si nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, dans la cité terrestre, nous n'y sommes pas des touristes indifférents. Nous n'y sommes pas des ennemis hargneux, des espions sournois ou des humoristes ravageurs. Nous sommes dans cette cité terrestre en amis sincères de tous ceux que Dieu place sur notre route. Et nous y sommes en tant qu'envoyés de la cité céleste dont nous sommes les citoyens. C'est une mission extraordinairement belle et exigeante. Écoutons Augustin définir les deux cités. Deux amours ont bâti deux cités. L'amour de soi, jusqu'au mépris de Dieu, a bâti la cité de la terre. L'amour de Dieu, jusqu'au mépris de soi, bâtit la cité de Dieu. L'un se glorifie de soi, l'autre se glorifie dans le Seigneur. L'un demande sa gloire aux hommes, l'autre met sa gloire la plus chère en Dieu. L'un, fier de sa propre gloire, marche en levant la tête. L'autre dit à son Dieu, « C'est toi qui es ma gloire, c'est toi qui relèves ma tête. » Celle-là, dans ses chefs, dans ses victoires sur les autres nations qu'elle opprime, se laisse dominer par la passion de dominer. L'autre nous présente ses citoyens, unis dans l'amour, serviteurs les uns des autres. Celle-là, dans ses princes, aime sa propre force. Celle-ci dit à son Dieu, « C'est toi qui es ma force. Seigneur, je t'aime. » Alors ce contraste peut nous rappeler que ce n'est pas sans danger qu'on vit à Babylone, dans la cité terrestre. On s'y laisse facilement contaminer par l'air qu'on y respire. Et on s'y laisse prendre d'autant plus facilement qu'elle n'apparaît pas sous les traits repoussants de la persécutrice sanguinaire, ivre du sang des chrétiens. Est-ce qu'elle n'est pas quand même, après tout, assez gentille et tolérante? Pourquoi nous réjouir de sa fin annoncée? En nous annonçant sa fin, en nous invitant à nous réjouir de sa fin, avec le ciel, avec les apôtres, avec les martyrs, l'Apocalypse nous invite à renouveler notre engagement comme citoyens de la cité céleste, de la cité de Dieu. Et quand nous voyons des malheurs s'abattre sur Babylone, nous sommes tristes par sympathie. Nous sommes tristes parce que ça nous touche aussi. Mais nous avons cœur. Une espérance si forte, si vive, une espérance que rien ni personne ne peut nous enlever, parce que nous attendons la cité qui a de solides fondements, et ça oriente toute notre vie. Amen.